France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Julie Wolgenstein. J'ai lu votre roman Chimère et je dois dire que j'ai littéralement adoré. J'ai aimé tous ces personnages qui sont hauts en couleur, parfois un peu désuets, mais qui sont à la fois tendres et piquants et qui donnent à votre roman la couleur d'une comédie policière. Et je dois avouer que ça, c'est assez jubilatoire.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un homme est mort aujourd'hui dans votre book club et c'est bizarre. C'était dans les années 1990 à Rome et cette affaire hante encore les esprits de cinq femmes. Le confinement de 2020 les isole du monde, mais les pages du nouveau roman de Julie Wolgenstein les rassemblent. Tour à tour, elles vont parler, témoignant d'une part de leur vérité, pas toute la vérité, leur vérité, à propos de cet individu soi-disant chuté accidentellement d'un pont de quatre voies après une agression. La narration enlevée, sarcastique, nous tient en haleine, pas tant par suspense, quoique, que par goût des voix. Ces femmes qui parlent et que le livre semble écouter sont hypnotisantes, drôles, cruelles, irrévérencieuses, iconoclastes. Le livre s'appelle Chimère, un peu d'illusion, un peu de monstre, et Julie Wolgenstein est notre invitée. Ensuite, et comme chaque jour, nous chercherons de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales, et ça tombe bien, l'autrice a un goût certain pour la chanson. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Et bonjour Julie Wolgenstein.
Bonjour Marie Richeux.
Chimère, apparue aux éditions POL en cette rentrée littéraire de janvier 2026. Bienvenue dans le Book Club, on est ravis de vous avoir à cette table. On va commencer comme d'habitude par un questionnaire lecture, peut-être en disant que vous êtes une lectrice particulière car vous êtes une lectrice aussi universitaire, en plus d'être une romancière, vous étudiez, vous avez soutenu une thèse consacrée à Henry James qui ouvre votre roman par une citation dont on parlera tout à l'heure. D'où vous vient ce goût pour la lecture dont vous avez fait à bien des égards métier ?
Oui, je pensais que vous alliez dire, je peux ajouter aussi que je traduis, ce qui est une manière particulière de lire, et dans mon cas de relire des romans. Alors ça m'est venu, mes parents étaient tous les deux des très grands lecteurs, j'y étais parce que mon père est mort, mais c'était des très grands lecteurs et dont même une grande partie de la vie professionnelle consistait à lire. Et donc je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je croyais aussi que vous alliez me demander comment j'avais appris à lire, parce que je sais que c'est une question.
Bah, on peut y aller, hein, c'est vraiment. C'est vous qui voyez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas posé.
Eh bien, parce que, en y repensant, c'est vrai que j'en parle très peu, mais j'ai appris selon une méthode très bizarre, qui était peu utilisée, qui avait été, à l'origine, je crois, conçue pour des enfants qui avaient des problèmes de dyslexie, ou des problèmes de, je sais pas, de dysorthographie. Mais dans cette petite école primaire où j'étais, on apprenait avec un manuel. Si vous avez vu le film de Chabrol, La Cérémonie, à un moment, on voit l'héroïne Sandrine Bonner qui était analphabète et qui se replie dans sa chambre et qui sort ce manuel qui s'appelait Bien lire et aimer lire. Et en fait, on apprenait à lire avec des gestes. Donc, je ne peux pas le faire à la radio, mais
ça apprenait quand même.
Bah, au début, on apprenait P, fallait se taper le ventre, D, fallait se taper le dos. Et donc, tout le monde se fichait de moi. Enfin, toutes mes copines qui n'étaient pas dans la même école, je disais, qu'est-ce que c'est que cette méthode absurde?
Mais c'est aussi le son des lettres, c'est vraiment.
En tout cas, le corps était engagé, et je ne sais pas si c'est pas parce qu'on était plusieurs à avoir suivi cette méthode, je ne sais pas si c'est ça qui a fait de moi une lectrice, en tout cas précoce et très très boulimique de lecture, mais de fait, entre 5 et 25 ans, je n'ai guère fait que ça.
Est-ce que vous avez continué à taper sur votre corps quand vous faites l'épée et à taper sur votre dos?
Non, j'ai un peu oublié d'ailleurs quels étaient les codes, mais c'était voilà une sorte d'originalité et peut-être aussi d'ailleurs que ça m'a d'emblée pour moi c'était associé le fait d'apprendre à lire, de savoir lire et d'être un peu différente. Et ça c'est le côté peut-être. Enfin, je dis ça pour me rassurer parce que la moitié de mes enfants ne lisent pas un seul livre, donc je me dis que voilà, ça, c'est aussi un truc qui vous isole un peu et qui vous marginalise d'être à ce point, comme je l'étais, obsédée par la lecture.
En même temps, ce que ça met d'emblée dans votre vie, Julie Wolgenstein, c'est un lien entre quand même la lecture, le langage, les sons et le corps. Chose qui est assez peu décrite dans ce questionnaire lecture, dans le book club. Qu'est-ce que ça fait au corps de lire ? Alors, probablement pas toujours pareil, d'ailleurs.
Non, pas toujours pareil. Avec l'âge, on commence à trouver que certains livres sont un peu trop lourds, qu'on peut plus passer des heures, par exemple, allongés sur le ventre avec les coudes, comme on peut le faire adolescent pendant des heures sans avoir mal aux épaules.
Ça m'est déjà difficile, donc je sais pas ce que je dois en tirer comme conclusion.
Il y a des tas de, comme ça, de positions de lecture qui deviennent moins faciles, mais sinon, avec le corps. Le corps est pas tant sollicité que ça, c'est pour ça que j'ai une prédilection pour les très rares romans, qui provoque le rire ou les larmes. C'est assez rare, en fait, de rire en lisant ou de pleurer en lisant. Et je sais quels livres me font rire et quels livres me font pleurer. Notamment ceux qui vous font rire. J'ai une attention particulière.
Bah, on va y venir dans un instant parce que c'est quand même une des caractéristiques absolument jubilatoires de votre livre Chimère. Mais restons un instant sur le titre de cette méthode de lecture, bien lire et aimer lire. Après tout, ces deux propositions qu'on pourrait déplier ensemble, bien lire, qu'est-ce que ce serait pour vous, Julie Wolkenstein ?
Je serais bien incapable de vous répondre parce qu'en fait, je pense que chaque lecture, même du même roman, est différente.
Et elle serait bonne à chaque fois ?
Elle est chaque fois bonne, elle est chaque fois, enfin, c'est pas un jugement de valeur, mais en tout cas, elle correspond chaque fois à l'état d'esprit qui est le vôtre quand vous le lisez. Moi, j'adore relire en plus. J'ai de moins en moins le temps parce que faut aussi lire ce qui apparaît, ce qui est nouveau, mais je crois que je préfère relire à lire, de même que je préfère revoir des films, à les découvrir.
Et quel plaisir particulier vous y trouvez ou intérêt dans cette deuxième fois ?
Justement, la différence, à la fois quelquefois la familiarité, des émotions dont on se souvient les avoir éprouvées, qu'on éprouve de nouveau, mais toujours différemment, parce que le temps qui a passé fait qu'on n'est pas le même, la même. Et voilà, là, je dois avoir un tempérament très très passéiste. Enfin, j'aime bien me replonger d'une manière générale dans le passé. Donc, la relecture, ça fait partie de ça. Quand je relis, je me souviens. En même temps que je lis, que je relis de l'état d'esprit dans lequel j'étais la première fois que j'ai découvert un texte.
Et vous mentionnez aussi que la traduction, c'est une lecture toute particulière. Quelles œuvres vous avez traduites qui vous ont amené à être une lectrice, particulière, précise, relectrice, Julie Wolkenstein ?
Alors tous les textes que j'ai traduits, là particulièrement en ce moment, je suis en train, sans perspective immédiate de publication d'ailleurs, de retraduire un très court roman d'une romancière anglaise qui s'appelle Rosamund Lehmann, ce roman en particulier s'appelle L'invitation à la valse, que j'avais lu très jeune, puis relu un peu moins jeune, dans la trentaine, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille de la province anglaise qui va à son premier bal. Et je découvre, mais peut-être que je l'aurais relu dans cette traduction qui existe, ça m'aurait fait le même effet, mais en le traduisant, je découvre qu'en fait c'est un roman extrêmement féroce, et que, alors j'avais bien compris que ce n'était pas Cendrillon, que c'était pas l'histoire d'un premier bal traditionnel et gnangnan, mais en vérité, il n'y a aucune mièvrerie, et au contraire, en fait, là, je n'ai pas fini, mais c'est une sorte de dénonciation des rêves des jeunes filles, de la médiocrité absolue des garçons qui les invitent à danser. Enfin, c'est en fait un massacre, ce livre.
Ça va vous décourager d'aller au bal, quoi.
En tout cas, ça vous console de ne pas y être invité ou qu'on ne vous fasse pas danser quand vous y allez.
Quand je vous ai demandé ce que ça faisait au corps, vous avez mentionné ces deux choses qui peuvent arriver. Donc, en effet, pleurer ou rire. Déjà, est-ce que c'est fréquent pour vous, ces manifestations-là ? Est-ce que vous pleurez souvent en lisant ? Est-ce que vous riez souvent en lisant ?
Pas assez. Au cinéma, beaucoup plus. Enfin, avec les films, beaucoup plus. D'ailleurs, je re-ris et je re-pleure quand je revois des comédies ou des mélos.
Ça fait repartie du plaisir.
Voilà. Mais avec les livres. Alors, rire, si, peut-être plus. Et bizarrement, plutôt quand il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Enfin, quand il y a quelqu'un d'autre à proximité. Parce que rire tout seul, c'est vrai que c'est... Bon, peut-être je le fais et je ne m'en aperçois pas. Je ne sais pas. Et pleurer, c'est très rare. Être ému, bien sûr, mais pleurer en lisant, je ne sais pas. Mais moi, ça ne m'est pas arrivé.
Est-ce que vous avez un souvenir, par exemple ?
Oui. J'ai un souvenir de la fin d'un très très beau roman anglais encore, une fois, de Evelyn Vaughan, qui s'appelle Retour à Bride's Head, qui est un de mes romans préférés. Et je me souviens qu'à la fin, la première fois que je l'avais lu, en tout cas, après je faisais les cours dessus devant mes étudiants, donc il valait mieux un peu me concentrer.
Mais désolée, on va tout arrêter.
J'avais vraiment eu la larme à l'œil en
Par surprise.
Par surprise, ouais.
Et rire alors ?
et rire souvent. C'est pour ça que j'aime les écrivains qui ont de l'humour. Je trouve que ça fait tout passer.
En fait. Alors, qui vous fait rire? Qui vous a fait rire récemment?
Je vais avoir l'air d'être très corporate, mais quand j'ai lu Colcos l'été dernier, j'ai très souvent éclaté de rire.
Ça tient à quoi? Même en s'en souvenant, vous rigolez?
Oui, je pense par exemple à un passage en particulier où le narrateur raconte...
Donc c'est le dernier roman d'Emmanuel Carrère.
Oui, le dernier livre d'Emmanuel Carrère, où il raconte comment son père justifiait... comment son prof de latin justifiait que cheval venait des wekus en latin, et que du coup le prof de latin faisait des espèces de grimaces épouvantables, parce que le lien phonétique ou linguistique entre ekus en latin et cheval en français n'est pas évident, et donc c'était une espèce d'une acrobatie absolument vaine et illégitime, et il raconte qu'en fait la manière dont son propre père se rattachait à une famille noble qui serait les Carrères d'Encausse, c'était tout aussi acrobatique et rigolote au fond que ce... Et là, la description du prof de latin qui, pour essayer de dire que écoute, ça a donné cheval en français, je me souviens d'avoir éclaté de rire, mais c'est pas le seul moment.
Est-ce que vous, qui êtes une grande lectrice, Julie Wolkenstein, quand même on peut dire ça, vous avez devant vous des œuvres qui vous attendent, des choses que vous n'avez jamais lues, mais vous vous dites, c'est pour moi, je sais que j'irai un jour.
Bolaño. Mais Bolaño, je suis sûre que c'est pour moi. Alors peut-être parce que c'est une littérature que je connais beaucoup moins bien, la littérature hispanophone, et je n'y suis pas encore allée. Mm-hmm. Mais et puis c'est des gros bouquins en général. Mais ça, par exemple, je pense que ça m'attend, c'est beaucoup dire. Il m'attend.
Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pour vous?
La manière dont les gens m'en ont parlé.
Ouais. C'est mystérieux ça quand même, non?
En même temps, les gens qui me parlent de livres, ils connaissent un tout petit peu mes goûts, donc je leur fais confiance. Bolaño, je me dis que ça va finir par arriver.
On va parler de votre livre à vous, juste après cette chanson de 1965, interprétée par Mina, chanteuse italienne à succès dans les années 60, « Un bacio è troppo poco ».
Ti amo, un bacio è troppo poco per capire veramente se mi piaci, se mi piaci, o invece è solamente simpatia, sia da parte tua che da parte mia. Un bacio è troppo poco per sapere se ti amo. Vorrei provare ancora perché credo
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La Bocca della Verità est une sculpture de bas-relief datant du 1er siècle après Jésus-Christ, et il faudrait pouvoir imaginer que cette bouche ne s'ouvre jamais de la même façon. La légende dit qu'elle peut avaler la main de celles et ceux qui ne disent pas la vérité. En l'occurrence, dans le roman qui nous occupe aujourd'hui, dans votre book club, la bouche s'ouvre 5 fois et sous 5 formes différentes pour dire peut-être la vérité ou en tout cas un morceau d'elle. 5 voix racontent ce qu'elles savent ou ce qu'elles veulent raconter d'un homme retrouvé mort en 1994 à Rome après une chute sur une quatre voies. Vous donnez plusieurs formes à ces prises de parole, Julie Wolkenstein, des notes pour un article non publié, un mail dicté par une personne aveugle, un monologue, un récit à la troisième personne, des comptes rendus de séances de psychanalyse. Au goût de savoir, façon roman polar, s'ajoute le ludique de la lecture-écoute de toutes ces voix. Le roman s'appelle Chimère, il a paru aux éditions POL et on en parle avec vous, Julie Wolkenstein. Alors, dans les articles qui accompagnent la publication de ce roman, cette rentrée littéraire de janvier 2026, on apprend que vous l'avez écrit relativement rapidement, puisque vous aviez décidé qu'il allait sortir en discussion avec votre éditeur POL en janvier 2026. Et j'avoue que j'étais assez stupéfaite de ce temps rapide, parce qu'en refermant le roman, on se dit, mais comment est-ce qu'elle a fait? Comment est-ce qu'elle a fait au sens mécanique du terme?
J'ai toujours un peu procédé comme ça, c'est-à-dire que je passe en général beaucoup de temps, des mois, quelquefois même des années, à me projeter dans le prochain livre et à me demander notamment quelle forme je vais lui donner. Quand en effet, à peu près il y a un an, début de l'année dernière, j'ai compris que si je voulais sortir en janvier, ce que je préfère de loin aux sorties de septembre, il faudrait le rendre en août. J'ai été obligée d'aller très vite, mais ça c'est il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà en place. Et au fond, c'est vrai de la plupart de mes livres. C'est-à-dire il y a un long processus de procrastination, de mise en place, pas forcément d'ailleurs.
Ça prend quoi comme forme? C'est une rêverie, c'est quoi?
Oui, je prends très peu de notes, un peu plus pour celui-là parce que comme c'était un polar, il fallait vraiment que ce soit, que ça soit très très rigoureux comme construction. Il fallait pas que je m'en mêle dans les dates, là il y a un peu plus de notes, mais enfin pas ce que j'ai commencé à prendre justement en écrivant. Mais avant, j'avais déjà quand même cette idée de la forme chorale, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire de faire se succéder 5 récits, 5 versions au fond de la même histoire. Je savais à peu près de quoi il serait question. Et donc, après, c'est juste une question d'organisation. J'essayais de réserver un moment chaque jour, si possible. Je crois qu'il y a eu très très peu de jours entre le début avril et la mi-août où je n'ai pas essayé de m'y remettre. Et j'aime bien ça, en fait. J'aime bien cette espèce de sprint, comme ça, après une période où j'ai l'air de ne rien faire, où les gens de mon entourage ont l'impression que je suis complètement en vacances, mais en fait, ça
travaille.
Ça mijote.
Qu'est-ce que vous avez comme image? Donc, un homme qui meurt en 1994, un peu d'Italie, le confinement 2020?
Oui, l'idée du confinement de 2020, parce que ça me paraissait, peut-être un petit peu comme ça, basique, mais ça me paraissait une occasion, un prétexte en tout cas pour ces femmes isolées à se repencher sur ce drame passé. Et la scène du meurtre, j'ai eu beaucoup de mal. Ça, c'est ça qu'il me fallait avant de me lancer. Il fallait que je voie à quoi ça allait ressembler.
Et concrètement, c'est quoi? Un matin, vous êtes à votre table d'écriture?
Non, je voyais que ça, c'était avant même de me mettre à écrire. Je voyais une chute. Je voyais que ça devait, quelque chose devait tomber. Que tout ça aurait lieu à Rome, qu'il y aurait une femme élégamment vêtue. Je peux pas vous dire, c'était assez flou. J'aurais pu réclamer que ma maison d'édition m'envoie un week-end à Rome pour, j'aurais rêvé
c'est
de
clair.
Ça. Faire du repérage. Et en fait, je me suis débrouillée avec Google Maps et mes quelques souvenirs de touristes et de vacances romaines.
Ça prend toujours, référence cinématographique, on y reviendra, ça prend toujours cette forme-là pour vous, Julie Wolkenstein, l'écriture des livres, c'est-à-dire longue rêverie, semblant de rien, d'oisiveté, et puis sprint final?
Presque toujours, oui. Alors là, le sprint était un peu plus soutenu que d'habitude, parce que le livre est beaucoup plus long que les deux précédents. Donc c'était un rythme vraiment, un peu staccanoviste. Ça a toujours plus ou moins pris cette forme. Alors, les tout premiers, il y avait moins de délai entre chacun parce que, en fait, je me suis mise à écrire finalement pas si jeune et que j'avais une sorte tout à coup d'impatience. Enfin, j'avais plusieurs projets, en fait, qui se sont télescopés et c'est allé assez vite. Maintenant, je passe plus de temps à me projeter dans le suivant. Mais ça a toujours plus ou moins pris cette forme.
D'aucuns disent aussi ou signalent que c'est un retour à la fiction, après deux livres qu'il l'était un peu moins. C'est intéressant parce que de fiction, il est aussi question dans ce livre-là, Chimère, en tout cas de rapport à la construction du récit, à ce qu'on raconte de soi et des événements. Est-ce que c'est agréable de revenir à cet endroit-là qui vous est cher?
Oui, les deux précédents n'étaient pas du tout de la fiction. Je m'étais même interdit d'inventer quoi que ce soit. Ça, je voulais que ce soit le plus authentique et vérifiable que possible. Ça correspondait sans doute à une période où je ne me sentais plus du tout capable d'écrire de la fiction. C'était après la mort notamment de mon éditeur, Paul Tchaïkovski-Laurence. J'ai eu une forme de désaffection, pas comme lectrice, hein, mais comme romancière à l'égard de la fiction, en sachant que j'y reviendrais. Je n'étais pas inquiète là-dessus, d'autant que je crois, je peux être détrompée par l'avenir, mais je crois avoir été aussi loin que possible dans ce qui était une veine plus autobiographique, plus personnelle. Et comme lectrice, en fait, j'aime aussi les textes qui sont des récits personnels ou des qui s'appuient sur la réalité. Mais j'ai quand même une vieille et forte préférence pour l'invention et pour la fiction.
Il faut être en quelle forme pour pouvoir se lancer dans l'écriture de la fiction? Quand vous dites j'étais plus en état d'écrire de la fiction.
Ça peut paraître tout à coup très futile et très vain. Je saurais pas l'expliquer autrement. Mais en tout cas, tout à coup, d'inventer des personnages, des scènes, je ne m'en sentais plus capable à un moment donné, certainement.
Il y a quelque chose à quoi j'ai été très sensible dans ce livre-là, Chimère, c'est le rapport aux voix. J'ai eu vraiment l'impression que le livre, plus que vous, écoutiez les voix de ces femmes. On commence avec l'une d'entre elles, Amélia.
Personne ne sait que je parle toute seule. Phrase idiote. La palissade, aurait dit mon frère. Il adorait les mots compliqués. Je suis idiote, mais j'ai beaucoup de mémoire et je me souviens de son cours sur la palisse. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Un quart d'heure avant la mort de mon frère, il était encore en vie, mais tout ce dont je me souviens, moi, c'est que j'avais réussi à attraper mon avion. L'heure exacte, à ce moment-là, j'avais cessé de m'en préoccuper. Je ne regarde jamais ma montre. Évidemment que personne ne sait que je parle toute seule, puisque je suis toute seule quand je parle toute seule. Quoique, je pourrais l'avoir dit à quelqu'un. Sauf que depuis 1994, depuis la mort de mon frère Osmond, enfin plutôt depuis les conclusions de l'enquête, je ne dis plus jamais rien de personnel, ni sur moi, ni sur les autres. Tous ces gens avec qui j'ai fait la fête pendant 20 ans, avec qui j'ai couché pour la plupart, qui comptaient toujours sur moi pour les ragots, les détails croustillants, qui me trouvent super ennuyeuse depuis la mort de mon frère, se demandent si ça m'a traumatisée. Mon mari, non. Il ne s'est rendu compte de rien. Il ne m'a jamais écoutée. Dans sa vie, je suis un bruit de fond. Quand je parle toute seule, c'est souvent au moi que j'ai été avant tout ça. Pour me, pour la mettre en garde. Pour me, pour lui rappeler pourquoi il faut que je continue à fermer ma gueule.
Amélia, c'est la petite sœur d'Osmond. Osmond, c'est celui qui est mort en 1994, qui a chuté Julie Wolkenstein. On peut dire ça, c'est à peu près sûr. Il a chuté et il s'est fait rouler dessus une fois qu'il était sur la 4 voies à Rome. Et c'est la deuxième voix, que l'on rencontre dans votre roman Chimère, que j'ai voulu entendre peut-être parce qu'elle parle du fait de parler, elle parle du fait d'être entendue, elle parle du fait de parler seule, de n'avoir été pour son mari qu'un bruit de fond, et elle parle de bien se souvenir de fermer sa gueule. Et il se trouve que vous ouvrez ce roman avec une citation d'Henry James, « On ne dit jamais tout ». Il me semble que c'est aussi vraiment beaucoup un roman sur la parole, sur des femmes qui parlent.
Oui, la première écrit, la première et la troisième écrivent.
Oui, mais elle dicte la première.
Elle dicte, c'est vrai.
Donc elle parle.
Alors elle verbalise, enfin elle parle à voix haute, c'est vrai. La deuxième, on peut préciser au passage qu'elle parle toute seule, mais elle parle toute seule avec une bouteille de vin à côté d'elle et que ça libère aussi sans doute pas mal son propos. Elle est confinée, elle est toute seule. Bon, voilà, ça donne peut-être à cette partie-là du livre un ton un peu plus désinvolte. Je savais aussi, j'avais deux envies particulières qui ont pris forme dans ce roman-là. C'était en dehors du fait que je voulais de nouveau écrire la fiction, c'était écrire un vrai polar, parce que j'ai une passion pour les polars, comme lectrice ou comme spectatrice, que j'ai une admiration sans borne pour les grands romans policiers, c'est-à-dire que je peux relire, même si justement je me souviens de leur résolution. Donc je voulais écrire un polar, et je voulais aussi écrire un roman de voix, pour appeler un terme un peu technique, un roman choral, c'est-à-dire, et un roman où plusieurs voix, cinq finalement, se combineraient. Alors elles alternent très elles se succèdent dans le livre, mais comme elles parlent toutes de la même chose, en fait, ça crée quand même une forme de cœur. Hein, et ça, c'était premier. Je l'avais déjà fait dans d'autres romans, mais pas de manière aussi systématique. Et c'est vrai que j'ai très vite cherché un moyen de les faire parler. C'est-à-dire que je voulais trouver une manière relativement originale pour chacune, pour aussi aider à les singulariser, à les distinguer les unes des autres. Alors, en fait, ce sont cinq personnes très différentes, donc il n'y avait pas, c'était pas si compliqué. Mais je voulais trouver un contexte dans lequel elles s'exprimeraient. Et il y en a qui sont forcément plus sincères que d'autres, en tout cas celle qui parle toute seule, celle aussi qui prend des notes pour un article qu'a priori ces notes personne ne lira jamais, et puis celle qui s'adresse à un ou une psychanalyste par écran interposé. Je me suis bien gardée d'ailleurs de donner un genre à ce ou cette psychanalyste. Alors c'est drôle parce que mes premiers lecteurs ou lectrices, eux ou elles, lui donnent une identité que j'ai bien veillée, j'ai surveillé mes accords de participation.
Et alors, il mise sur quoi plutôt?
Comment ?
Il mise
alors
quoi
plutôt un homme,
ouais,
bizarrement. Pareil. Alors peut-être parce que c'est des lectrices femmes, elles ont vu un homme, alors que vraiment rien dans le texte ne permet de l'affirmer. Et alors elle, on peut imaginer qu'elle est sincère, parce que je pars du principe, en parfaite d'ailleurs béotienne, car je ne me suis jamais adressée à aucune psychanalyste, mais je pars du principe que mentir à quelqu'un qu'on paye pour vous écouter, ce serait un peu absurde.
Oui, enfin vous citez Henry James qui rappelle qu'on ne dit jamais tout.
Ah, on ne dit jamais tout. On ne dit jamais tout. Et c'est au lecteur ou à la lectrice, en l'occurrence, de reconstituer, à partir de ces cinq témoignages ou de ces cinq récits, de reconstituer sa vérité, qui peut varier aussi d'une lecture à l'autre.
Est-ce que c'est important que ce soit des femmes qui donnent leur version de cette histoire, Julie Wolkenstein ?
C'était pas un choix, disons. Je me suis pas dit je vais faire un roman de femmes ou faire parler particulièrement des femmes. Mais il se trouve que les deux personnages masculins principaux du récit sont morts tous les deux. Alors, un a été assassiné, c'est donc Osmond. Et puis, il y a un autre personnage masculin qui est important pour moi, qui est un homme qui est mort très jeune du sida dans les années 90.
Même année, 94 d'ailleurs.
La même année, mais et d'ailleurs un mois avant, enfin très très peu de temps avant dans la chronologie du récit, qui est un personnage important pour plusieurs des femmes qui s'expriment là, pour sa mère d'abord, qui est la première qui ouvre le livre, et puis pour la dernière aussi. Bon, lui, il est mort aussi, donc mes témoins, en fait, celles qui me restaient à cuisiner, c'était des femmes.
Par ailleurs, en tout cas, moi, je le relève, c'est-à-dire que on a beaucoup dit, et à raison, que la parole des femmes n'était pas peu entendue, déformée, inaudible. Il me semble que là, il y a quelque chose dans ce livre qui les écoute. Moi, ça m'a fait ce sentiment-là, quand même.
Alors, on le dit, et c'est certainement vrai d'un point de vue, disons, très large et très général. Moi, étant une bavarde impénitente et ayant toute une bande de copines qui sont toutes aussi bavardes que moi, disons que dans mon entourage immédiat, je n'ai pas l'impression que la parole des femmes soit tellement bridée. Mais si vous interrogez mes proches, ils vous diront plutôt qu'ils ont du mal à en placer une. Donc, c'était pas délibéré, il n'y avait pas de. Même si, en fait, la question. La relation entre les hommes et les femmes.
Elle est centrale dans ce livre.
Oui, elle est centrale dans la vie. Elle joue un rôle, évidemment, aussi dans l'intrigue policière. Mais pas seulement, parce que c'est aussi la relation de ces femmes entre elles, pour certaines de leurs relations, je pense pas, une relation mère-fille, plusieurs relations mère-fille qui sont, disons, un peu tordues, un peu
complexes.
Compliquées, ouais. Mais c'était pas le sujet, disons.
Un des sujets, c'est d'écrire un polar. On va écouter Pierre Bayard parler de cette forme heureuse, jubilatoire du roman policier.
Mes livres ont tous plus ou moins la forme d'un polar. C'est un genre que j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est une attention au lecteur que de se demander comment on va lui faire tourner la page. Bon, moi, c'est pas un geste évident pour moi de tourner la page d'un livre, notamment en sciences humaines. Dès que je m'embête, j'arrête. Et donc, introduire des structures de polar dans mes livres, c'est une attention au lecteur, un souci, un peu comme les feuilletonistes, vous savez, du 19e siècle, comme Alexandre Dumas, de tenir le lecteur en haleine. Pour moi, c'est une préoccupation constante. Des gens qui ne s'occupent pas de leur lecteur et qui disent, moi, je m'en occupe en permanence, mon souci, c'est de l'intéresser et, si possible, de le faire rire. Et citer Agatha Christie, c'est une manière de témoigner de ça dans mon écriture.
Pierre Bayard qui parle d'une forme d'attention au lecteur, comment on va lui faire tourner la page. Si vous prêtez aussi attention à vos lectrices et à vos lecteurs, ça passe par quoi, Julie Wolkenstein ?
Alors d'abord, je voudrais dire que je suis 100% d'accord avec ce que dit Pierre Bayard, dont je suis d'ailleurs moi-même une lectrice très très assidue. Et moi aussi, notamment en sciences humaines, quand ça m'ennuie, j'ai beaucoup de mal à poursuivre, ce qui est embêtant dans mon métier. Et il a un mérite, lui, très particulier, qui est justement de proposer des essais qui sont par ailleurs dans le fond et quelquefois assez même très riche et subtil en leur donnant cette forme en effet qui me paraît l'élégance minimale
C'est quoi l'élégance minimale? On a envie d'y aller, on a envie de tourner la page.
C'est je ne vais pas vous retenir uniquement par la grandeur de ma pensée ou la beauté de mon style. Je vais vous retenir, vous allez rester là lire mon livre parce que vous avez envie de savoir comment ça fini. Voilà. Moi, j'ai cette ambition depuis que j'écris, et même si c'était pas des vrais polars, mes précédents romans, il y avait quand même toujours ce souci de ne pas ennuyer, de capter l'attention. Et comme lectrice, je trouve aussi que c'est une politesse minimale qu'on me doit quand je commence un bouquin. Pas forcément parce que ce sont des polars, mais oui, je suis 100% d'accord. Du coup, j'ai oublié votre question.
C'était l'attention portée au lecteur, ça passe par quoi? C'est-à-dire, s'il y a l'idée que la moindre des choses que vous nous devez, c'est de nous donner envie, alors comment faites-vous?
J'essaye de chaque fois, même quand ce sont des textes beaucoup plus personnels et comme les deux derniers, et où il n'y a pas véritablement d'enquête, j'essaye quand même de promettre une énigme et sa résolution. Alors quelquefois c'est vraiment très très mince hein, comme énigme et comme résolution, mais quelquefois d'ailleurs l'enquête que je propose au lecteur, elle ne porte que sur justement la forme, c'est-à-dire comment on va se débrouiller avec les informations qui vous sont données. Mais disons que ça guide en permanence. Et quand j'écrivais des récits personnels, d'ailleurs, c'était encore plus contraignant parce que je me demandais tout le temps si ça avait le moindre intérêt, ce que je racontais sur moi, pour un lecteur ou une lectrice qui ne me connaîtrait pas. Et c'est pour ça que ce sont des livres très courts. C'est-à-dire qu'en fait, je passais mon temps à éliminer en me disant non, ça n'a pas sa place. Quand on écrit un roman, c'est différent.
Pierre Bayard parlait de la joie, de semer des indices, de jouer. J'ai parlé de cette sculpture en bas-relief du 1er siècle, la Bocca della Verità, la bouche de la vérité, qui est un des motifs qui revient dans votre livre. Il y a aussi cette chute d'Osmonde sur cette quatre voies, l'idée d'une dispute qui l'aurait précédée et en quelle langue a eu lieu cette dispute. Est-ce qu'ils ont fait exprès de se disputer en italien ou en français, etc., etc. Comment est-ce que vous jouez, vous, à semer des indices? Vous parliez de la construction, du travail de construction. Ça se passe comment concrètement? Vous avez un mur de post-it, vous avez un schéma où vous y allez
Alors là, pour le coup, c'est pendant l'écriture. Alors quelquefois je le note parce que j'ai peur de l'oublier quand je serai arrivée au moment où ce sera utile deux jours après. Mais c'est vraiment en écrivant. Et ce qui est le plus amusant, ça c'est vraiment le propre à la fiction, et ça m'est arrivé à peu près chaque fois, heureusement, c'est pour ça que je continue à en écrire, c'est que quelquefois, on sème des petits cailloux sans en avoir même conscience. Et puis, 50, 100, 150 pages plus loin, on se dit, mais ça va me resservir, ça c'est bien.
Vous pensez à quoi, par exemple, pour Chimère?
Alors, je pense à la première partie où je raconte une fête, j'aime bien raconter une fête. Je raconte une fête qui se passe dans les années 70 à Florence, sur une terrasse.
Ça fait très la Grande de Bellezza.
Peu Grande de Bellezza, sauf que c'est à Florence et c'est un petit peu plus ancien. Et où la première narratrice, qui est donc devenue entre-temps une très vieille dame, raconte comment elle est allée à cette fête, comment elle a trouvé ça très ennuyeux, comment elle a trouvé tous ces gens beaucoup trop jeunes, qu'elle se sent habillée comme une matrone, et que du coup elle a envie de partir très tôt. Enfin, elle raconte toutes sortes de choses qui me sont venues au fil de la plume, qui n'étaient pas spécialement là pour servir.
Et pas puis, prémédité.
Non, pas prémédité du tout. Et elle vient d'acheter un palazzo à Florence. Elle a beaucoup d'argent. Tous ces gens ont beaucoup d'argent. Bon, ça ne les rend pas forcément super heureux. Mais... Et donc, à la fin, dans la quatrième partie, l'avant-dernière, on a le contre-champ sur cette fête. On l'a déjà d'ailleurs eu avec d'autres personnages. Mais là, on a le contre-champ avec la grande amie de cette première narratrice qui l'a amenée à cette fête. Et là, c'est venu tout seul. Tout à coup, je me suis dit, cette femme, la quatrième narratrice, qui est une grande manipulatrice, en fait, elle a fait exprès de l'amener à une fête où il n'y a que des jeunes, où elle sait qu'elle va s'ennuyer, où elle sait qu'elle va être habillée comme une matrone, pour pouvoir ensuite l'emmener passer la nuit dans ce nouveau palazzo, et tout ça pour essayer de resserrer les liens entre elles. Donc, tout à coup, le contre-champ, il y avait des choses que... Alors, tout ça n'est pas, disons, essentiel pour le polar, mais moi, ça m'a amusé beaucoup, et le roman choral, ça se prête beaucoup à ça, parce que tout à coup, la même scène, vue par un autre personnage, sous un autre angle, bien, il y avait des choses qu'on avait semées dans cette scène, et qu'on avait absolument... Par exemple, il y a un trampoline qui joue un rôle important dans le récit. La première fois que je mentionne un trampoline, c'est juste parce que c'est un jeu d'extérieur propre à amuser une adolescente et même une jeune femme un tout petit peu plus âgée. Et ce trampoline, du coup, est une sorte maintenant de fil rouge. Il est revenu. Donc ça c'est ce que je préfère avec la fiction, c'est comment quelque chose qui est venu un peu comme ça, on ne sait pas très bien d'où, va resservir, et comment il y a une sorte de... C'est pas vraiment comme un moteur, je m'arrive de dire un moteur, mais un moteur, d'abord, je sais pas comment ça marche du tout. Alors, j'allais vous dire un organisme, je sais pas non plus très bien comment marche un organisme.
Non, mais en tout cas, il y a quelque chose, oui.
Quelque chose d'autonome.
Il y a quelque chose d'autonome avec une énergie propre en son sein, qui serait l'énergie d'un texte qui fait que ça avance, quoi.
Qui fait que ça, que ça retombe sur ses pieds, on sait pas pourquoi. Par exemple, alors, c'est le problème avec un polar, ça, je
le savais. Vous voyez bien que j'avance complètement sur la pointe des pieds.
Voilà. Ça, c'est un problème, mais j'avais dû d'ailleurs un tout petit peu l'anticiper, que je devrais parler publiquement d'un polar, donc sans rien spoiler, puisque on sait dès la page 12 que Osmond a été tué, par qui, on ne sait pas pourquoi, comment, tout ça. Mais,
enfin, on le sait si on est attentif.
Oui, enfin, je le dis très vite, disons que qui est mort, je ne dis pas pourquoi, qui est mort et qui était là. Mais donc, sans rien spoiler, il y a un personnage qui se prénomme Iris. Et c'était un peu un concours de circonstances. Ce prénom est venu parce que j'étais en avril dernier dans le Midi chez des amis et il y avait une floraison d'iris partout. C'était extraordinaire. Et en fait, jusqu'à la toute dernière scène du roman, tout à coup, ce mot de iris, qui a d'autres sens, qui n'est pas qu'un prénom, a trouvé de nouvelles significations. Et ça me saute à la figure à chaque fois. Je me dis, évidemment. Et ça, c'est très, très jouissif.
On va écouter la voix de Nathalie, auditrice du Book Club. Elle vous a lu et elle vous pose une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Julie Wolgenstein. J'ai lu votre roman Chimère et je dois dire que j'ai littéralement adoré. J'ai aimé le fait d'entrer dans ce roman par une narration mêlée d'humour sous couvert de souvenirs familiaux et de basculer, avec vos indices un peu distillés, dans une intrigue sous forme de jeu de pistes. Je trouvais ça redoutablement malin, cette construction. L'écriture fluide et précise, fait qu'on lit ce roman comme on suivrait une énigme délicieusement retorse et avec le sourire jusqu'à la révélation finale, et ça c'est vraiment extra. Dans Chimère, vous construisez une enquête où la vérité passe souvent par une voix qui se contredit et se dérobe sans cesse. Est-ce que pour vous le mensonge est ici un moteur narratif ou une forme de protection contre la vérité? Merci pour votre réponse.
Merci à vous Nathalie pour cette lecture et cette question qui est pile poil dans la cible. Julie Wolkenstein, en effet, vérité, mensonge, version multiple des faits, c'est une des grandes questions qu'agite votre roman. Alors, quel est le statut du mensonge?
Alors, merci d'abord, Nathalie. J'adore votre émission parce que vous ne...
Votre question?
Non, mais les auditeurs ou les auditrices ne disent jamais de mal des livres que vous présentez.
Ah, mais non, mais c'est pas le projet.
Ça, c'est très agréable.
Ouais, vous voudriez?
Non, mais je suis ravie d'être là parce que c'est très sympa.
On pourrait y penser, mais c'est Alexandra Lebegovic qui récolte les questions et vraiment, c'est rare qu'il aille récolter
des questions. Il y a des agressions.
Ouais.
Et je suis ravie aussi que Nathalie souligne l'humour du livre, parce qu'en fait, pour moi, quand même, j'avais peur que le livre soit extrêmement sombre.
Ah, pas du tout.
Parce que ça raconte quand même des expériences qui sont des expériences, pour certaines, très, très violentes, très traumatisantes. Donc,
non, à minima, il est enlevé.
Voilà. Donc j'ai sans doute un peu même forcé, enfin je veux dire, j'ai appuyé sur la pédale de la légèreté parce que pour compenser ce qui reste pour moi quand même une histoire et un sujet un peu sombre, un peu dark comme a dit un de mes enfants. Voilà, ça me fait plaisir que ça puisse faire rire aussi. Alors oui, bien sûr que la vérité, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, pas dans un texte de fiction. Peut-être même d'ailleurs non plus dans un texte qui ne serait pas de fiction. En tout cas, pour moi, en littérature ou en art, ce qui est intéressant, c'est justement de déployer des vérités alternatives et qui peuvent cohabiter, qui peuvent coexister. Et à mon sens, là, les cinq femmes qui s'expriment, aucune ne croit mentir. Il y en a qui se taisent. Oui, il y en a une, la dernière en particulier, qui a choisi le silence, et c'est elle justement qui clôt un peu le débat en disant que la vérité peut faire autant de mal que le mensonge ou que le silence. Et j'ai failli, d'ailleurs, ça, c'est très, vous êtes une lectrice très fine, j'ai failli à un moment intituler le roman. Ça a été un peu en débat à un moment, l'avocat de la vérité. Et l'avocat de la vérité, je trouvais que ça faisait un peu cuistre, que pour quand on ne parle pas l'italien, et la bouche de la vérité en français, c'est beaucoup moins joli. Mais ça a été une option.
On va écouter la voix du romancier Claude Simon dans les entretiens qu'il donnait en 1976 sur l'antenne. Vous parlez souvent de votre découverte de son roman L'Acacia, un moment de lectrice importante. Il parle d'une action qui serait finalement prétexte à autre chose.
Vous savez, le roman a quelque chose de commun avec la peinture. C'est que dans l'un comme dans l'autre, on pourrait dire que le Dieu est caché. Et il est d'autant plus caché qu'il est là, bien visible, il n'y a même que lui, mais que l'attention du public est attirée par une action qui, en réalité, n'est là, du moins depuis la disparition de l'art sacré, disons vers la fin du XVe, l'action n'est là que comme prétexte. En fait, c'est pas l'histoire d'une dame qui trompe son mari, ce n'est pas non plus le spectacle de trois pommes et d'un compotier sur une table de cuisine qui sont les sujets de Madame Bovary ou d'une nature morte de Cézanne. Alors, c'est donc que chez Cézanne ou chez Flaubert, il se passe quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ce n'est ni la plus ou moins grande vraisemblance psychologique ou ressemblance apparente de cette histoire d'adultère ou de ses pommes, mais quelque chose qui est en plus d'Emma ou des pommes. C'est quelque chose, je pense que c'est la qualité du langage, écriture ou peinture, du langage qui dit Emma ou qui dit les pommes.
Oui.
Et comme tout langage consiste essentiellement dans l'établissement de rapports, c'est donc la qualité des rapports que Flaubert ou Cézanne ont su établir entre certains mots, entre certaines couleurs ou entre des lignes, des droites, des courbes. Tout cela dans le cadre d'une composition.
C'est prodigieux d'être aussi clair quand même. La voix de Claude Simon qui parle d'une action romanesque qui serait prétexte à autre chose, c'est un sentiment qu'on peut avoir en terminant Chimère. On pourrait se demander quel est le motif secret qu'on n'aurait pas vu dans le tapis et qui serait le véritable, comment on pourrait dire, motif du crime littéraire, Jolie Wolkenstein.
Alors moi j'espère qu'on est quand même attentif à l'histoire.
Bien sûr.
Resté sans doute un peu puéril. Je me souviens que quand j'étais petite, ma mère qui ne me tenait pas de discours aussi élaboré, et parce que j'étais vraiment petite que Claude Simon, me disait toujours l'histoire ne compte pas, ça n'a aucune importance l'histoire. Et je ne suis pas d'accord, en fait, j'ai beau maintenant avoir un peu mûri, moi j'aime qu'on me raconte des histoires.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Dieu peut être caché dans une histoire très agréable
sûr,
à lire.
Bien sûr, mais disons que je n'ai aucun mépris. Je me souviens que quand j'avais publié mon premier roman, j'avais rencontré une femme que je n'ai jamais revue d'ailleurs depuis, qui me regardait un peu de haut, et quand je lui avais dit que j'étais publiée chez POL, là, elle commençait à me regarder avec une certaine... Mais elle m'avait demandé, mais ça raconte une histoire, ton livre, d'un ton, mais vraiment. Et
parce que pendant tout un temps, on peut dire que c'est aussi l'histoire littéraire française. Pendant un temps, la question d'avoir une histoire avec un début, un milieu, une fin, des personnages, etc., n'était pas très bien vue.
Oui, mais moi, j'avais la chance de lire essentiellement des romans anglais et américains où, heureux, voilà,
eux, on voulait tourner les pages.
Ils se sont pas, se sont moins posés ce genre de questions que nous. Ils se les sont certainement posés. Ils les ont pas du tout réglés de la même manière, et en tout cas pas en s'interdisant de fabriquer des personnages et des intrigues et de faire plaisir au lecteur. Donc moi je suis restée un peu pour ça. Alors je suis enseignante en littérature, j'ai bien conscience que ça ne suffit pas, l'histoire. Mais heureusement, quand j'écris, j'oublie un peu justement cette nécessaire composition et cette ambition que le livre tienne par autre chose que simplement par l'histoire qu'il raconte.
Et pour autant, quand vous écoutez Claude Simon dire que cette autre chose tient dans des rapports, et que notamment les rapports peuvent être, dans le cadre de la littérature, des rapports évidemment de langage, de construction, de rythme, etc., ça vous parle?
Oui, mais heureusement, encore une fois, quand j'écris, j'ai l'impression d'être un peu clivée et de ne pas... Je suis pas de ces écrivains qui se corrigent. C'est aussi pour ça que je peux écrire assez vite, c'est-à-dire que je ne peut-être je devrais d'ailleurs travailler davantage, hein, mais j'ai une certaine un certain goût pour le premier jet. Ça se relie quand même et ça se retravaille. Mais en tout cas, je n'ai peut-être parce que justement comme mon métier, ça consiste à décortiquer dans le plus grand détail des très grands textes littéraires. Quand j'écris, j'essaye d'oublier un peu cette déformation professionnelle.
Une autre manière d'entendre cette archive de 1976, ce serait de dire qu'il y a quelque chose qui échappe au fameux moteur du texte et qu'on pourrait refermer Chimère en se disant oui, ok, il y a l'enquête sur Osmonde, ok, il y a cinq femmes qui parlent de cette mort qui a eu lieu en 94 et qui les hante, mais peut-être le livre il dit autre chose, et moi c'est vrai que j'ai fermé le livre sans pouvoir dire de quoi il s'agissait, mais en me disant il y a quelque chose dans cette histoire, il y a un motif dans cette histoire qui ne dit pas son nom. Peut-être que Henry James a raison et qu'on ne dit jamais tout.
On ne dit jamais tout.
Ok. Dernier extrait de votre livre.
Parmi les différents disques que proposait la boutique de Lausanne où je m'étais rendue avant de prendre la route pour Rome et de faire étape à Pratolino, j'aurais pu en choisir n'importe quel autre. Et parmi les contes que j'ai écoutés au moins une fois avec Iris, j'aurais pu me souvenir du vilain petit canard ou de la petite poussette. Sauf que j'en suis absolument sûre, c'était la petite sirène qui était lue en premier. Or, une sirène, je ne vous apprends rien, est un monstre, une chimère, un être hybride qui ne trouve sa place dans aucune catégorie, aucune espèce déterminée. C'est ainsi que je me voyais. Alors j'ai fait comme la petite sirène d'Andersen, pour éviter, dans mon cas, d'être une mère dénaturée, je me suis coupé la langue. Pas littéralement, mais j'ai préféré me taire. Je me suis tue jusqu'à aujourd'hui. Et comme l'héroïne du conte, j'ai souffert de ce silence que je m'étais imposé.
Je ne vais pas dire qui parle, Julie Wolkenstein, dans cet extrait de votre roman Chimère, mais simplement peut-être évoquer avec vous le choix finalement de ce titre-là, Chimère, ce motif de la sirène et l'idée que la chimère c'est évidemment à la fois l'illusion mais aussi le monstre à plusieurs têtes et l'idée qu'on serait ou pas monstrueuse. Il y a quelque chose aussi qui dans cet extrait-là nous renseigne sur presque une aspiration vers le conte. C'est pareil, je ne vais pas dire trop de choses, mais il y a une belle-mère, il y a une mère, il y a une petite fille. Autant de motifs qui sont tellement récurrents dans les grands contes que nous avons lus.
Alors ça, c'est un exemple, le texte que vous venez de lire, c'est tout à fait un exemple de coïncidence non préméditée. Alors ça, sûrement, ça s'explique très bien par les mécanismes inconscients, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout spécialiste. Il se trouve que le personnage, dont nous cachons son identité, joue du piano. C'est une pianiste. On le sait assez vite qu'elle est une bonne pianiste. Elle est toute seule, c'est le confinement. Je me disais, bon, elle doit jouer du piano. Et puis, sa fille vient de mourir. Je me suis dit, ah, j'ai moi-même été une très médiocre pianiste, comme toutes les ados dans les familles bourgeoises de ma génération. Et mais il y a un morceau que je jouais et que j'aimais beaucoup, c'était la première des scènes d'enfants de Schumann. Donc, je me suis dit, elle vient de perdre sa fille, elle joue, c'est logique, la première des scènes d'enfants de Schumann. Et puis, quasiment dans la foulée, je me suis souvenu que j'avais moi-même, quand j'étais petite, un disque de contes d'Andersen, accompagné de musique, et que la petite sirène, était accompagnée de cette scène d'enfant, la première du recueil de Schumann. Et c'est parti comme ça, et j'avais au passage complètement oublié que la sirène, la chimère, enfin, mais simplement ça s'imbriquait, et ça fait partie des très heureux hasards, qui ne sont peut-être pas du tout des hasards, et qui font que la chimère est revenue par un biais tout à fait insoupçonné et non prémédité. Le terme de chimère, si s'est imposé assez vite, c'est aussi, alors ça on peut le dire sans peut-être trop spoiler, mais enfin je fais attention quand même, que ça a un rapport aussi avec une rareté, une curiosité génétique qui fait que certaines personnes ont en elles des cellules qui ne leur appartiennent pas. On appelle ça le chimérisme ou le micro-chimérisme. Et donc,
certaines personnes. Je ne vais pas plus loin que ça.
Non.
Ok.
Voilà. Mais enfin, d'ailleurs, toutes les femmes qui ont eu des enfants.
Ok, voilà.
On porte en elles les cellules de leurs enfants. Voilà. Ça, c'est une chose.
Y compris celles qui ont porté pas longtemps leur enfant.
Voilà. Mais je veux dire, même toutes les mères, on porte. Il y a des cellules encore en nous, des bébés que nous avons portés.
Cellules que nous appelons cellules chimères. Elles ont migré.
Je vous avouerai que je n'ai pas fouillé tellement le dossier scientifique, mais ce qui est sûr, c'est que dans certains cas, ça peut produire des c'est très rare, mais ça peut produire des anomalies. Et que cette anomalie, génétique, pouvait tout à coup jouer un rôle central dans le cadre d'une enquête policière. Donc je trouve que c'est un joli mot, chimère. Ça résonnait avec cet élément important dans l'intrigue, et ça résonnait aussi parce que pour moi la chimère c'est essentiellement quelque chose d'hybride. Et donc comme c'était un roman qui était dès l'abord conçu comme une succession de 5 partitions, d'une certaine manière, de 5 voix différentes, je trouvais que ça marchait assez bien. Entre nous, vraiment, la Bocca della Verità a tenu la rampe assez longtemps, mais la corde, comment dire, mais je ne regrette pas, parce que je trouve que c'est plus simple, peut-être, et plus adapté.
Comme quoi, quand même, de quoi sont faites les fictions, Julie Wolkenstein. C'est-à-dire que vous disiez avoir travaillé vite après avoir beaucoup rêvassé à ce livre-là. Ce qui s'amasse dans ce temps, a priori sans travail, est un amas mystérieux qui ensuite se révèle dans l'écriture avec tout autant de mystère, quand même.
Je vous remercie, parce que du coup, vous sauvez ma réputation auprès de encore tous ces proches qui trouvent que je ne fais jamais rien. Mais
ça sert.
Le chimérisme, c'était assez intérieur. C'était une des premières idées. Mais par exemple, je me suis aperçue récemment que j'avais toujours eu envie d'écrire une espèce de road trip entre la France et l'Italie. Et je ne l'avais jamais fait. En fait, j'avais fait du coup dans les vacances un road trip tout à fait normand. Et en fait, il y a un moment dans le livre qui est un moment important aussi pour l'intrigue, puisque c'est une fuite. Alors c'est pas de France en Italie, mais d'Italie en France. Et tout à coup, je me suis dit, ça y est, je l'ai faite en fait. Elle s'est greffée. Elle fait partie aussi de cette hybridation qu'est au fond tout roman.
Comme quoi, patience, quoi. Tout arrive.
Tout arrive.
Et à ce temps-là, c'est l'agenda du Book Club qui arrive. Mathilde Wagman, qui a préparé cette émission avec moi, a trouvé 3 événements à annoncer. Tous ces événements font écho, vous font écho, Julie Wolkenstein. Écoutez donc, ce sont des événements qui vont avoir lieu à l'IMEC, l'Institut de la Mémoire et de l'Édition Contemporaine, situé dans l'abbaye d'Ardennes, juste à côté de Caen, lieu qui vous est probablement cher parce que vous enseignez à l'université de Caen et que vous avez fait de cet endroit l'un des décors de votre roman Les Vacances, paru en 2018. Alors, 3 événements. D'abord, les archives de Françoise Sagan viennent de faire leur entrée dans les collections de l'Institut. Les archives de l'autrice de Bonjour Tristesse, icône de la littérature d'après-guerre, reflètent sa vie tumultueuse et ont pu être en partie partie préservée par son fils qui a choisi de les confier à l'IMEC. Deuxième événement, on signale qu'aura lieu du 26 au 30 janvier un atelier autour de l'écriture de Jean-Luc Lagarre, cette fois, destiné aux étudiants en théâtre du Conservatoire de Caen. Un atelier qui fera l'objet d'une restitution publique le vendredi 30 janvier à 18h au Théâtre des Cordes. C'est sur réservation, on peut donc aller voir tout ça. Et troisième événement, on mentionne que Justine Brisson, en cette année, est la quatrième lauréate d'une bourse IMEC pour l'histoire de l'édition et pour son projet Guillaume Dustan. Ça aussi, ça fait écho, parce qu'il me semble que vous avez proposé votre premier manuscrit à POL par admiration pour l'œuvre de Guillaume Dustan.
Entre autres.
Ouais. Entre autres choses.
J'admire beaucoup Sagan aussi, toutes ces nouvelles me réjouissent.
Eh bien, elle étudiera la place de Guillaume Dustan dans l'histoire littéraire de l'édition contemporaine. Les archives sont conservées à l'IMEC depuis 2008. On rappelle pour finir que la bibliothèque de recherche et les fonds de l'abbaye d'Ardennes sont ouverts. On peut venir y étudier, y lire, y réviser. Par exemple, moi, c'est un de mes rêves. Voilà, je sais qu'un jour j'irai.
Et la cantine est sublimement bonne.
Bon, bah voilà, vraiment, ça veut dire que 2026, c'est mon année pour les mecs.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et c'est cadeau, vos romans sont cadeaux pour ce qui vient. Julie Wolkenstein, on joue au grand jeu des pages musicales à chercher de la musique dans les livres. Ça vous fait sourire tellement il y en a partout.
Oui, puis dans celui-là, oui, vous n'avez pas eu à chercher
voilà,
très loin.
En tout cas, il y avait vraiment plein de possibilités pour terminer cette émission. Véritable playlist, les chansons sont cachées, elles apparaissent complètement ou en italique, on a à peine besoin de les chercher. Vous voulez dire un mot sur la place de la chanson dans vos livres ?
Dans ma vie en général.
Pourquoi pas ?
Oui, je suis très très fan de variété. J'ai pas forcément des goûts très, chics, mais j'aime la variété, j'aime la chanson française.
Jusqu'au titre, hein, et toujours en été.
Et toujours en été. Et pour celui-là, comme ça se passait en Italie, et dans les années 70, enfin, je me suis régalée.
On se quitte donc avec un extrait de Chimère. Isabelle, qui avait bu pas mal de Prosecco, elle, prit la main de Milord. Il dansait moins bien que Raph, mais à peine moins bien. Tous les invités en âge de tenir debout se regroupèrent au milieu de la pièce et regardèrent Anna rejoindre Serena qui n'avait pas quitté son piano. Anna attrapa un micro sans fil dissimulé derrière une pile de partitions et les prévint. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour répéter, 3 jours et encore seulement pendant que la signora faisait la sieste. C'est le seul moment où elle enlève ses appareils auditifs et nous tenions à ce qu'elle ne se doute de rien. Serena attaqua les premières mesures d'un tube que même les copains d'Henri connaissaient, apparemment. Tandis qu'Anna entonnait d'une voix rauque et grave « A fare l'amore cominciato » et ponctuait le refrain en reversant violemment sa tête en arrière en une très convaincante imitation de Raffaella Carrà. Tante Lydia, enchantée, se mit à faire de même, projetant chaque fois quelques gouttes de Prosecco sur sa blouse de soie blanche, bientôt suivie par tous les grands vieillards qui participaient ainsi, bien qu'assis, à la fiesta.
Su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 è un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore.
Autant vraiment je préfère la radio quand elle n'est pas filmée, autant vraiment pour ce petit pas que vous venez de faire, Julie Wolkenstein, j'aurais adoré qu'on puisse... Mais peut-être qu'on peut récupérer l'archive vidéo, je ne sais pas. Non, surtout pas, surtout pas. On ne dit pas tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci
à vous. Parler de votre roman Chimère, paru aux éditions POL. Aujourd'hui, au son, c'était Élise Le. À la réalisation, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Léa Weissgruss, Jeanne Aléos, Alexandra Laibegovic, qui continue d'animer la conversation sur le compte Instagram du Book Club, et Garance Roubieux pour nous écrire leBookClub@radiofrance.com.